Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour parler de bien joué, de changement. Ça change. Ça change à la frate. Ça fait plusieurs dimanches de suite qu'on médite sur cette réalité du changement. Et puis, on suit quelqu'un de particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un vieil homme qui s'appelle Abraham, exactement, pour dire très précisément. Alors, je sais que lorsque je prêche sur l'Ancien Testament, je fais particulièrement plaisir à Anthony Perrault, parce qu'il trouve que c'est important de prêcher sur l'Ancien Testament. Et on continue dans cette lancée, puisque le rigolo, c'est que la semaine prochaine, il va prendre le contre-pied. Donc, on se réjouit déjà de l'entendre aussi sur le changement. On a fait différentes choses, on a lié les promesses qu'Abraham avait reçu à tous les changements qui sont passés dans sa vie. On a aussi pu nous attarder dimanche sur le contenu de cette promesse que toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies à travers cette famille d'Abraham qui s'est étendue jusqu'à l'infini. Et puis toujours avec Abraham aujourd'hui, on va réfléchir à cette notion de stabilité et de changement. Parce qu'on va se rendre compte qu'en parcourant une fois de plus la vie d'Abraham, on va encore aller un peu plus loin dans les chapitres de la Genèse qui comptent cette histoire, on se rend compte que le changement, il a besoin d'éléments stables pour se vivre. On ne peut pas juste parler de changement, changement dans tous les sens, parce que sinon ce serait le chaos. On a besoin d'éléments de stabilité pour vivre aussi ce changement. Puis c'est vrai que quand je vous écoute ce matin, c'est peut-être aussi des éléments de stabilité, parce que j'ai l'impression de retrouver l'église de mon enfance avec ses chants. C'est cette stabilité, cette tradition qui nous a habités, qui nous a été transmise et qu'on peut faire revivre de temps en temps dans notre communauté qui se veut multigénérationnelle et ça se vit de manière forte avec vous. Alors merci beaucoup. Et avant d'aller vers Abraham, je vous invite à un petit détour qui ne va pas faire l'unanimité, je le sais. Parce que c'est un petit détour par un match de football. Alors évidemment, il y a les pour, il y a les contre, hein, on ne va pas rentrer dans le débat. Malheureusement ou bien heureusement, ça dépend de quel côté vous vous situez, votre pasteur, il aime bien le foot, alors il va vous passer un petit extrait de foot ce matin. C'est le jeu magnifique, en plus il est partisan parce que c'est le jeu magnifique du Barça, de Barcelone, FC Barcelone. Je suis assez un fan, bien sûr, il y a des réactions, mais on ne peut pas être d'accord tous sur qui on supporte, mais c'est un jeu qui illustre parfaitement cette réalité du mouvement. Et puis ça va être illustré par la vidéo si tout marche comme il faut. Il est beau, hein, vous êtes d'accord. Même ceux qui sont pour le Real, vous êtes obligés de dire qu'il est beau. Ça fait d'autant plus plaisir quand c'est marqué face à Ronaldo, hein, surtout qu'on va jouer contre eux mardi soir. On espère qu'ils tirent la même tête contre la Suisse, hein, ce serait bien. Tout ça pour vous dire, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais le nombre de joueurs sur ce but qui étaient en mouvement. C'est impressionnant, s'ils étaient statiques, ils n'auraient jamais pu marquer ce but. Il y a au moins 5 ou 6 joueurs différents, alors qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a la balle. Il y a au moins 5 ou 6 joueurs différents qui étaient en mouvement, tous ensemble de manière coordonnée, pour pouvoir marquer ce but magnifique et puis faire tourner en bourrique finalement les défenseurs madrilènes. Le foot, c'est un sport qui doit prendre en compte son contexte, puis c'est un contexte dynamique. Ce n'est pas comme si je fais du golf, par exemple. Là, on est stable, il n'y a rien qui se passe, on a les deux pieds bien ancrés. Si on fait du tir à l'arc aussi, par exemple, pouc, c'est stable, c'est un contexte stable. Le foot, vous l'avez vu sur la photo, sur la vidéo, je ne vais pas faire une démonstration, c'est complètement différent, c'est un contexte en mouvement. Et puis, c'est un élément clé à prendre en considération. Et je pense que le Barça, ces 10 dernières années, c'est le club qui l'a le plus pris en considération parce qu'il a basé toute sa technique d'entraînement. Puis il y a des études très poussées qui ont été faites au niveau scientifique pour prendre en compte cette réalité que le jeu moderne du foot, il est en mouvement. Si vous regardez un match même de 1998, la Coupe du Monde, parce que c'est ce qui nous a plus marqué, vous serez frappé de voir à quel point c'est plus statique que maintenant. Ça va beaucoup plus vite maintenant, le jeu de passe, le jeu en mouvement. Et puis, ils ont compris ça, et du coup, ils ont fait leur stratégie d'entraînement en fonction de cette réalité, de ce contexte. Ça, c'est le premier élément. Puis pour nous, c'est exactement la même chose en tant qu'Église, puis on va le voir avec la vie d'Abraham. Je pense qu'on n'est pas dans un contexte de joueur de golf. Désolé pour ceux qui jouent du golf. Mais on est dans un contexte de jeu en mouvement. L'Église, elle est au cœur d'un environnement en mouvement, au cœur d'un environnement qui bouge. Puis j'ai envie de dire, c'est à nous d'adapter nos techniques d'entraînement par rapport à cette réalité-là. On y est, qu'on le veuille ou non, notre environnement bouge, puis on est plutôt appelé à vivre des choses comme le Barça que plutôt comme Tiger Woods. Pour être en mouvement, il nous faut prendre en considération notre contexte qu'il est en mouvement. Donc, ça change, effectivement. Et notre mouvement d'église actuellement, je pense qu'on est dans la bonne voie parce qu'on prend en compte cette dimension-là et on a envie de le vivre, ce mouvement de changement. Pour vivre le changement, pour vivre ce mouvement au mieux, il y a besoin d'éléments de stabilité. Et puis si on reprend l'exemple du Barça, ça c'est intéressant de voir que s'ils n'avaient pas ces éléments de stabilité, ils n'arriveraient jamais à jouer comme ils jouent ce jeu en mouvement. Et pour eux, leur stabilité, elle pose sur trois éléments clés. C'est une technique parfaite, c'est-à-dire que si, lorsque l'on reçoit la balle, on dévie juste de quelques centimètres, tout le jeu en mouvement n'est plus possible, parce qu'on prend du retard, on n'est pas bon dans les enchaînements, et ça ne va pas. Donc il faut une technique parfaite, il faut une vision du jeu excellente, et puis insérer dans l'idée et dans le corps des joueurs, même pas seulement dans leur tête, hein, dans leur corps pour que ça vienne des automatismes, que le jeu est en mouvement et que c'est leur caractéristique principale. Et c'est pour ça qu'au Barça, c'est très difficile de venir, lorsqu'on transfère un joueur qui a évolué dans un autre club, très difficile pour ce joueur qui débarque de s'intégrer dans le jeu du Barça parce que c'est très exigeant sur ces éléments de stabilité-là. Pour dire que si on veut faire un jeu en mouvement, c'est quelque chose d'exigeant. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, il y a une exigence là derrière. Et puis pour nous, c'est aussi des éléments de stabilité que je nous invite à découvrir à travers de nouveau l'exemple d'Abraham. On a commencé cette série et puis cet exemple avec Abraham, avec cette promesse qu'il reçoit qui sera en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et on se rend compte qu'à peine il reçoit cette promesse qui se veut comme une promesse assez stable, voilà qu'il doit partir, s'exiler en Égypte pour cause de famine. Ensuite, il doit se séparer d'une partie de sa famille, en l'occurrence Lot, c'est le chapitre 13. La seule famille de sang qui lui reste après avoir quitté son père et tous ses ancêtres, voilà qu'il perd encore son neveu pour se séparer de lui. Encore un changement, encore du mouvement dans sa vie. Ensuite, en Genèse 14, il se trouve pris au milieu d'un conflit avec les trois rois de son voisinage. Il n'avait pas soupçonné que ça pouvait arriver, mais ça arrive, encore un mouvement. Tout ça alors que Dieu lui avait promis plutôt une promesse qui visait la stabilité et la sécurité. Il est pris au cœur d'un nouveau changement. Si bien que quand on arrive au chapitre 15 et qu'on lit ce chapitre 15 de la Genèse, Abraham est un peu au fond du bac et il est invité par Dieu à sortir de sa tente. Dieu le fait sortir de sa tente, le fait venir au cœur de la nature, au milieu du désert, puis lui dit une chose, compte les étoiles du ciel et dis-moi combien il y en a. Il n'arrive pas à compter, puis il dit, Dieu lui dit, ce sont tous les bienfaits que je prépare d'avance pour toi. Toutes les promesses que je prépare d'avance sont là parce que ces étoiles vont aussi représenter la multitude de ta descendance. Puis il est tout seul quand il reçoit cette promesse. Il est tout seul, il n'y a aucune stabilité dans sa vie, il est ballotté de gauche et de droite. Et pourtant, il reçoit cette promesse aussi parce qu'il décide de faire le mouvement, de sortir de sa tente et d'obéir à l'appel de Dieu, de sortir pour recevoir cette promesse. En Genèse 16, malgré cette promesse toute fraîche qu'il vient de recevoir de la part de Dieu, l'attente d'une descendance est véritablement trop longue. On connaît bien, il s'en va, le texte est très pudique, hein, il s'en va avec la servante Agar et Ismaël naît 9 mois plus tard. Ça crée des tensions, évidemment. Ça frictionne entre Sarah et Agar. Agar doit partir dans un premier temps, elle va pouvoir revenir. Elle doit fuir. de nouveau un changement, de nouveau une situation mouvementée. En Genèse 17, encore une fois, comme des sceaux qui sont posés sur la vie d'Abraham, des jalons qui sont mis dans sa vie, Dieu se fait de nouveau connaître à lui. Et Dieu lui rappelle de nouveau la même promesse, tout en le faisant entrer dans une nouvelle dimension avec un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham. Il ajoute cette particule pour signifier que, à jamais, Dieu fait alliance avec lui. Il fait alliance, et ça, c'est une réalité, un socle sur lequel toute sa vie, Abraham va pouvoir s'appuyer. Le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis Dieu, marche en ma présence et sois intègre. » C'est Genèse 17, 1 et 2. « Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi, et je te ferai proliférer à l'extrême. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don, un don, quelque chose qu'on reçoit, de mon alliance entre toi et moi. » Une promesse de plus, une promesse capitale dans la vie d'Abraham, dans sa vie mouvementée, un élément de stabilité supplémentaire. Il avait reçu une parole forte qu'il aurait une descendance, une promesse qu'il a pu, malgré les circonstances, s'approprier. Et là, Dieu va encore un cran plus loin. Il fait alliance avec lui, et cette alliance suppose un changement d'identité chez Abraham. Il n'est plus le même avant et après l'alliance. Il y a un élément de stabilité dans son identité propre qui lui est donné, et on va voir que cet élément de stabilité, c'est ce qui va lui permettre d'affronter les changements qui vont suivre. En Genèse 18, il reçoit la visite de trois messagers. Trois messagers qui annoncent que Sarah sera enceinte. Ce qui provoque chez elle le fameux éclat de rire de Sarah. Mais oui, bien sûr. J'ai plus de 80 ans et je serai enceinte. Je n'y crois pas. Et ensuite, on saura la suite, elle va effectivement être enceinte et donner naissance, en Genèse 21, enfin à Isaac. Cette naissance qui va bouleverser leur vie et qui sera le fruit de cette promesse tant attendue. De nouveau un changement, puisque là, Agar et Ismaël s'en vont pour de bon, et ils peuvent jouir du fruit de cette promesse. Et vous le savez tous, l'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête là parce que Abraham et Sarah vécurent heureux, eurent encore beaucoup d'autres enfants, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Au cœur de la réalisation de cette promesse, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Il demande une fois de plus de sortir de cette situation, entre guillemets, confortable, pour offrir son fils unique en sacrifice. Je ne vais pas m'étendre sur cette demande de Dieu, parce qu'on ne la comprend pas. Ce que je retiens, c'est qu'elle vient de Dieu, puis que Dieu agit en toute liberté comme bon lui semble. Dieu reste souverain, même dans les demandes les plus incongrues qu'il peut nous faire. Dans sa souveraineté, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. On pourrait disserter longtemps sur le pourquoi du comment. Toujours est-il que Abraham se met en route. Abraham selle son âne, il met Isaac dessus, il monte sur une montagne. Il va jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Et lui dit, c'est bon, je vois que tu as pris en compte mon ordre, je vois que tu marches en ma présence et que tu es intègre, alors arrête parce que ce n'est absolument pas ma volonté. J'arrête ce mouvement-là à ce moment-là et ensuite, c'est suite à cette parole décisive de Dieu où il stoppe ce mouvement que la descendance peut vraiment prendre toute sa force et toute sa vigueur. Il y aura Isaac, ensuite il va se marier, ensuite il y aura une descendance nombreuse. Mais il a fallu ce moment clé, de nouveau cette action extrêmement spectaculaire qui n'était pas prévue du tout, ni pour Abraham, ni nous quand on lit l'histoire, surtout pas quand on la lit la première fois. Et il intervient là, et c'est à partir de ce moment-là que toutes ces promesses vont pouvoir se réaliser. On le voit, Abraham, il a une vie en mouvement. Il a une vie qui n'arrête pas de changer. Il a une vie qui n'est pas stable du tout. Et pourtant, sans les éléments de stabilité que Dieu lui offre, d'après moi, il n'aurait juste pas tenu le coup. Il n'aurait pas pu tenir le coup parce que les changements auraient été trop nombreux. Il aurait été pris comme dans une machine à laver. Il ne se serait pas sorti. Impossible. Et on peut les lister, ces éléments de stabilité. Ce sont avant tout les promesses et la présence de Dieu. Les promesses que Dieu lui fait à des moments clés de sa vie. Où il lui dit peu de choses en termes de mots. Peu de choses et souvent les mêmes. Et pourtant, il a besoin de les lui redire à différents moments clés de sa vie. Et du côté d'Abraham, ce que l'on peut retenir, c'est que ces éléments de stabilité venant de Dieu, il a réussi à les accueillir. Il n'a pas constamment été pris dans ces changements perpétuels avec une tête qui n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Il a pu prendre le temps de s'arrêter pour recevoir les promesses de Dieu. Et puis c'est peut-être un peu des fois le drame de notre époque, une époque super dynamique, une époque qui va dans le changement, une époque qui va dans le mouvement, et c'est positif. Mais une époque, c'est le corollaire logique, qui a de la peine à s'arrêter, qui a de la peine à dire, attendez, là stop, on tire un petit moment le frein à main, on se pose, on laisse tomber l'agitation, et dans ce cadre-là, se mettre à l'écoute de Dieu. Il y a un grand théologien que j'aime bien, qui s'appelle Rowan Williams, qui dit, un des grands défis de notre époque, ou une des grandes tragédies de notre époque, c'est qu'on peut passer toute une vie en passant à côté de Dieu, alors qu'il est là. Ça me fait penser aussi à Oderset quand il est venu, puis qu'il a parlé de cette relation qu'il avait avec son ado, souvent derrière son écran d'ordinateur, qui laisse de temps en temps la porte entrouverte, puis que lui, en tant que père, il essaye de s'immiscer dans cette petite ouverture, et puis lui dire « je suis là ». Puis soit ça prend, soit ça ne prend pas. Souvent, l'écran est plus fort que sa présence de père. Souvent, nos écrans sont aussi plus forts que la présence du père. Hein. C'est un peu le mouvement de notre époque, de se dire, est-ce qu'on a cette capacité comme Abraham à sortir de notre tente, à aller là où Dieu nous appelle, pour véritablement recevoir cette promesse. Sans iPhone, sans rien du tout. Juste Dieu et nous. Pour nous, cette révélation du Saint-Esprit, elle est un peu différente. J'étais hier en train de donner un cours sur les différents écrits qui sont entre les testaments, les écrits intertestamentaires puis les écrits apocryphes chrétiens. Et puis on mettait ça en parallèle avec la révélation biblique. Puis ce qu'on devait se rendre compte, c'est que nous avons une chance extraordinaire, c'est d'avoir la révélation biblique dans son ensemble. On la connaît entièrement. Pour Abraham, il devait prendre au fur et à mesure conscience de cette réalité. Il ne savait pas tout de Dieu comme nous, on a beaucoup plus d'informations à disposition. Il était aussi dans cette vie de mouvement avec Dieu. Et je nous invite tout à nouveau ce matin à pouvoir remettre au centre de nos vies, surtout en cette période de vacances qui commence, remettre au centre de nos vies, prendre ses pas de recul pour réécouter sa parole tout à nouveau. Cette parole qui est pour nous, la même révélation qu'Abraham a pu avoir dans le désert. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous parler si on est peut-être au sommet de la Dôle ou j'en sais rien où, des lieux qui nous sont chers, mais nous avons ce trésor de la parole dans lequel on peut puiser tout à nouveau des éléments de sa révélation. Ces promesses que Dieu fait à Abraham, on peut vraiment les prendre pour nous-mêmes. Marche en ma présence et sois intègre, c'est-à-dire entier avec moi. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Oui, nous sommes dans une réalité en mouvement. Et oui, nous pouvons vivre sereinement ce mouvement parce que nous pouvons nous appuyer sur les éléments stables que sont la parole, la présence du Saint-Esprit et notre écoute. Ce sont des éléments stables que nous devons vivre dans nos vies de chrétiens. Ce Dieu que nous croyons est un Dieu en mouvement. Et c'est un Dieu qui nous donne ces éléments de stabilité pour que nous puissions vivre cette vie de mouvement au mieux. On en est là, ici, à Nyon, au cœur du 21e siècle et au cœur de la ville. Et puis, effectivement, parfois, Quand je regarde tout ce qui bouge autour de nous, ça me donne le vertige. Comment être pertinent dans cette société? Comment passer ce message de bonne nouvelle à celles et ceux qui nous entourent? C'est un peu vertigineux. On se demande comment prendre en compte cette masse en mouvement qui est au cœur de nos vies peut-être, en tout cas au cœur de notre environnement. Et plus je m'en rends compte, plus j'ai le vertige. Et c'est là précisément que j'ai besoin de me remémorer ces promesses de Dieu, ces éléments de stabilité qui, eux, ne changent pas et qui, eux, donnent une direction. En plus de cette révélation de l'écoute de la parole, j'en mentionnerai encore deux. La première, c'est la réalité inchangée de la bonne nouvelle offerte en Jésus-Christ. On revient aux essentiels quand on cherche des éléments de stabilité. Ce Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle, tout est résumé là. Tout est résumé là et peut-être c'est bon de le remémorer tout à nouveau. Il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose à cette bonne nouvelle d'un Dieu qui va vers nous, qui nous cherche là où nous sommes, qui nous prend par la main et qui nous fait aller là où il veut. On n'a pas besoin de se creuser la tête, savoir quoi annoncer. On peut peut-être se creuser un peu la tête sur le comment l'annoncer. Mais le quoi, il reste le même. C'est un élément de stabilité. Et le deuxième élément de stabilité, en plus de la révélation que nous avons par la parole, c'est cette réalité aussi pour nous, en tant que croyantes et croyants, de la force de l'alliance que Dieu fait avec nous. Il fait exactement la même alliance entre chacune et chacun d'entre nous, ou il veut faire la même alliance entre chacune et chacun d'entre nous et Dieu, que comme il a fait cette alliance entre Abraham et lui. Il a exactement la même intention. Et cette alliance, si effectivement elle a de temps en temps besoin de nous être rappelée, ce n'est pas pour autant que le don même de l'alliance a changé d'un iota. Vous comprenez la différence? Oui, on a besoin de se la réapproprier, mais non, elle n'a pas changé parce que mes sentiments auraient pu changer par rapport à elle. Cette alliance reste un élément de stabilité fort et inchangé entre Dieu et nous. Si lui décide de faire alliance avec nous et que nous l'acceptons, vous n'avez pas besoin de chaque matin se reposer la question de savoir si on est aimé de Dieu ou si on est en alliance avec lui. C'est un élément stable sur lequel on peut construire sa vie et aller de l'avant à la rencontre des autres. Sur ces trois piliers d'alliance, de proclamation de la bonne nouvelle et de révélation au travers son Saint-Esprit et notamment par la parole, on peut vivre pleinement cette vision qui est la nôtre, de partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun dans un monde qui bouge. Sans ces trois piliers de stabilité, alliance, bonne nouvelle, parole, impossible de mener à bien cette mission qui nous est confiée. Vivre cette mission va nous demander d'être mobiles, en mouvement, attentifs à ce qui nous entoure, et c'est assez passionnant. Ça pourrait être déstabilisant, mais je crois qu'en nous appuyant fermement à la suite d'Abraham sur ces trois réalités de notre vie de foi, on va y arriver avec l'aide de Dieu. Amen.